France Culture. Tout de suite, la série musicale. Zoé Sfez.
Scottish Gaelic culture is, it has an honesty about it. These songs were written in response to love and loss, politics and war. They represent in some ways a time that has gone and has passed.
Like the sun quenched its first dawning, the moon lost to the sea.
You know when you gave your love away, it opened your heart, everything is new.
It's like the voice can be used as an instrument. You know, you can sing solo, but also when you put layer upon layer of vocals like we work with it, you don't really hear that this is 100 voices recorded. It's just an overall beautiful sound.
(17h-18h) la série musicale Zoé Sfez.
In Norway land I lived maid, Balloon my babe, this maid began. I know not where your father is, nor yet the land that he dwells in.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les évocations. Une heure de radio sur la musique, en musique. C'est la série musicale, bienvenue. Pour certaines, leurs voix sont bien connues. Elles transportent ceux et celles qui les écoutent vers des paysages sublimés, ceux des Highlands en Écosse, du Connemara irlandais, ou vers l'âpre côte bretonne. Mais leurs timbres ont été aussi des lieux de catharsis pour transcender des histoires finalement assez violentes, celles de l'effacement d'une culture, de différentes cultures, d'une prise de possession à la fois des corps, des villes, des têtes, des langues et des mélodies. Dans ce nouvel épisode de notre série Diva, on se penche sur ces voix de ces chanteuses dont on considère qu'elles sont des divas parce que l'aura, l'influence qu'elles ont eue va bien au-delà de leur simple qualité musicale, de la beauté de leur timbre, de l'apport au courant musical qui les a portées et qu'elles ont fait émerger quelque chose de plus grand simplement que la musique qui parle à ceux et celles qui les écoutent. Et on rend hommage, on évoque, une évocation forcément elliptique aujourd'hui, aux divas celtiques qui ont émergé depuis la fin des années 60, au disque et un peu partout, qu'elles soient célèbres dans le monde entier, parfois de manière assez caricaturée ou caricaturale, moins connues dans vos oreilles, des Sœurs Goadec à Sinéad O'Connor, de la très épique Enya aux nouvelles voix irlandaises du quatuor féminin Lenless que vous entendez sous ma voix. Ces chanteuses dites celtiques ont en tout cas joué un rôle déterminant dans la connaissance, le rayonnement de cette identité celtique, même si parfois elles s'en sont défendues, qui en réalité n'a rien d'évident puisque la notion même de musique celtique, elle est née au cours des 19e et 20e siècles, issue de territoires qui sont en fait complètement différents, regardés comme celtiques. Elle regroupe des traditions très diverses, tant sur la forme que sur les instruments qu'on utilise. Mais elles ont deux choses en commun. La première, c'est de porter un répertoire qui lui-même porte une culture et des langues, en l'occurrence le breton par exemple, ou le gaélique, qui ont été refoulées, comme par exemple en Bretagne dans un contexte de construction dans l'État-nation, ou pire, absolument proscrites, dissoutes dans un processus de colonisation par les Anglais, notamment en Écosse et en Irlande, et d'une histoire assez violente, vieille de plusieurs siècles, et qui restait extrêmement violente au XXe siècle. L'autre point commun, c'est que musicalement, c'est ce courant musical offre une place déterminante à la voix, et notamment aux voix de femmes. même si elles sont parfois très proches de la tradition et que parfois elles revendiquent un côté complètement rock, cette empreinte celtique, elle est très présente dans les voix des femmes qu'on va évoquer aujourd'hui, évocation qui sera forcément subjective et comme toujours absolument pas exhaustive, tant les différents renouveaux de ces moments de la musique celtique à la fin des années 60 et 70, dans l'essor du mouvement dit folklorique, puis dans les années 90, avec l'essor d'une espèce de rock folk, et à nouveau aujourd'hui avec des groupes comme l'Endless ou comme l'Incum, nous passionne une évocation donc assez amoureuse sur proposition de notre attachée de production Laura Dutèche-Prérez dans la série musicale sur France Culture.
Oh, as I rode out one morning fair down by Blackwater's side, I've been gazing all around me when an Irish young girl I spied. Oh, Edna Rose, it was her cheeks, curled in yellow was her hair, and I caught her by and I said, my young lady fair. Oh, well, that's not the promise you made to me down by Blackwater's side. Oh, the promise you made, it is now that you break. I would prove thou so loyal and true. Oh, the promise you made, it is now that you break. I would prove thou so loyal and true. Were there ever a poor misfortunate boy as he there were many a good man's daughter with her hair all hanging about. They go rocking the cradle all night long, singing, "Lalo, my baby boy, when your fishes will fly and your seas run dry, I will turn and I'll marry you."
Lily Power, Meave Mare, Ruth Clinton et Sinéad Lynch. Quatre voix, quatre femmes pour ce quartet vocal féminin irlandais qui s'est formé à Dublin en 2013 et qui fait partie de ce nouveau renouveau de la musique folklorique, particulièrement en Irlande. Ce quatuor féminin qui met en valeur dans son disque, un disque absolument bouleversant, toute une série de vieilles mélodies irlandaises, certaines extrêmement anciennes, certaines plus récentes. Blackwater Side, c'est vraiment l'un des exemples les plus nébuleux. On ne sait pas qui a écrit cette chanson, dans quel contexte elle est née, où on l'a chantée. Elle a été reprise un nombre de fois complètement délirant, puisque vous avez pu l'entendre chez Led Zeppelin, dans la mélodie, mais aussi dans la voix des célèbres Clancy Brothers, des groupes de a cappella masculins, pour le coup. On dit que Led Zeppelin se serait inspiré de Blackwater Side pour jouer la base instrumentale de Black Mountain Side sur leur premier album en 68, c'est vous dire l'importance de ce type de mélodie dans une espèce d'inconscient collectif qui va évidemment de la musique traditionnelle au rock. L'Endless, c'est l'un de ces derniers groupes qui montre bien que cette attention à ce répertoire celtique perdure, reste extrêmement fort après un moment fondamental, celui dit du revival folk qui a touché à peu près le monde entier, dont on vous a souvent parlé ici dans la série musicale, un moment dans les années 70 extrêmement important et qui surgit en même temps que l'exode rural met d'une certaine manière en péril tous ses répertoires. Vous avez entendu ici quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans ces voix. Ces voix celtiques, elles ont en fait des caractéristiques et le quatuor vocal Lenless les montre de manière presque épurée, presque cataclysmique, on va dire. On est à l'acmé de ce que fait la voix celtique, notamment chez les femmes, à des fréquences assez aiguës, vous l'avez entendu, et vous allez le retrouver un peu partout, des résonances très longues et ce qu'on appelle du phasing, c'est-à-dire un espèce de son qui tourne, parce que l'idée, en réalité, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble aux instruments qu'on peut retrouver dans la musique celtique, notamment le bourdon, une idée de résonance. C'est ce qu'on appelle, par exemple, une forme de tuilage en français, c'est-à-dire que le chant va se croiser dans les lignes vocales, et c'est particulièrement fort ici dans un quartet, nous faisant un peu perdre l'impression qu'il y a un début et une fin dans la manière de produire de la voix. Ça, c'est quelque chose qui est présent depuis toujours, qui a été encore plus formalisé par toute une foule de chanteurs et en fait particulièrement de chanteuses. Et cette impression, finalement, de la voix celtique, à la fois dans la richesse harmonique des aigus et à la fois dans cette idée que tout résonne, on va la retrouver aussi bien avec des chanteuses qui utilisent des versions et un matériau très traditionnel a cappella, qu'évidemment dans des productions beaucoup plus modernistes, notamment celle d'Enya, qui va reproduire ce type de système avec sa propre voix toute seule et toute une foule de nouvelles inventions techniques. Parmi les femmes qu'on a beaucoup écoutées au tout début de ce revival folk, il y a des Bretonnes, les Sœurs Goadec, on vous en a déjà parlé dans la série musicale. Elles sont trois, Marie-Yvonne, Eugénie et Anastasie. Elles sont nées en 1909 et 1913. Elles ont commencé à animer des fest-noz à partir des années 50 avec des couples de sonneurs, de chanteurs. Elles vont être accompagnées par deux autres de leurs sœurs. Finalement, c'est quand même Eugénie qui sera un peu la star. Elles vont en réalité tenter d'intégrer un truc qui est principalement réservé aux hommes, c'est-à-dire le chant à danser. Et elle développe une nouvelle technique, ce qu'on appelle le Canhan Discan. Alors, je m'excuse ici d'avance des prononciations que je tenterai de mettre en œuvre, tant évidemment ces langues, parce qu'on les connaît peu, sont extrêmement difficiles à prononcer. Ces sœurs Goadec, elles vont devenir les stars de ce mouvement de pop celtique à partir des années 70, alors qu'elles ont plus de 60 ans. On les enregistre. Écoutez-les ici dans La poule qui couve.
Warzon in is an kreizan mor Ni malaket ne ya ringo
Warzon in is an kreizan mor Ni malaket ne ya ringo
Si zinyo la lini la langa la lette zan
Son mignon a si yo lette na sa galon Che zinyo bonbon e bonbon la toujou la kom sa
Se te glide zi malaket Triver la pousse, y was a vez.
Sete guidez, y malaket. Triver la pousse, y was a vez.
Si seigne la ligne, la langue, la lettre,
Samson, mignon, si yo lette, dans sa galon, si seigne bonbon, et bonbon, là, toujours là, comme ça.
Sans la rengouté, y war en l'ordi. Diel le rené, piti, piti.
Sans la rengouité, y war en l'ordi. Yel verene piti piti
si seigne la ligne la langue la lettre
chanson mignon a si yo lette dans sa galonne si seigne bonbon et bonbon là toujours là comme ça
toute une bande comme ça a-t-il pleuvé on y allait quand même quoi oh mais on n'allait pas si loin qu'on va maintenant oui ça c'est des bons souvenirs ça s'il fallait faire ça maintenant on pourrait plus quoi.
On n'a plus de goût à chanter aussi quand on voit les gens danser, vous savez. Autrement, quand personne ne danse, moi, c'est pas, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On chante et puis personne ne danse, c'est pas ça. Il faut qu'ils dansent aussi.
La 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 Mes brumes nanitant, mais la garlivite. On l'a rien à qui rochette. Mes brumes nanitant, la garchemisette. Mes brumes nanitant, mais la garchemisette.
Les sœurs Goadec qui racontaient dans cette archive comment, en réalité, entre la fin des années 30, où elles se sont beaucoup produites, dans une petite vingtaine d'années, quand elles avaient une petite vingtaine d'années. Et ces années 60, il y avait eu cette espèce de trou, hein, la fin des fest-noz, la fin d'une culture de la danse, d'une culture de la musique partagée. C'est sous l'impulsion de celui qui va réinventer, on va dire, la musique celtique dans les années 60 et 70, j'ai nommé Alan Stivell, dont on vous a déjà beaucoup parlé, le redécouvreur et surtout le reconstructeur d'un instrument qui s'était perdu et que non seulement il remet sur pied, mais qu'il remet au premier plan. J'ai nommé Alan Stivell, à qui on a consacré une large partie de notre émission sur la harpe, qui va aller chercher ses sœurs Goadec, trois plus six jeunes femmes à l'époque, elles ont 60 ans, qui vont se produire jusqu'à Bobino et dans tous les fest-noz qui fleurissent dans les années 60 et 70 aux côtés de groupes extrêmement électrifiés. Vous entendez ici leur maîtrise de ce qu'on appelle le can-handy-scan, donc c'est cette espèce de chant contre chant qui permet en réalité, en Bretagne, c'est une technique profondément bretagne, chant et déchant, de produire a cappella une musique dite à danser. C'est vraiment ce qu'on appelle la musique dite tuilée. Ce qu'elles racontaient, hein, évidemment, cette espèce de contraste entre les fest-noz de leur jeunesse et ceux de la nouvelle génération, où à l'époque d'ailleurs la plupart des gens qui participaient au fest-noz pouvaient se délecter de ces musiques qu'ils redécouvraient, mais avaient déjà perdu eux-mêmes la pratique de la danse, puisque c'est une pratique évidemment qui se transmet de manière non officielle et qui s'était perdue avant d'être retrouvée. Dans cette même idée, on peut retrouver une autre voix qu'on connaît moins en France. Elle s'appelle Lorena McKennitt. Elle a beaucoup compté. Elle est née en 57 au Canada, mais d'une famille justement irlandaise du côté de sa mère et écossaise du côté de son père. Un père éleveur de bétail, une mère infirmière, mais qui tous les deux écoutent profondément et avec beaucoup de révérence justement les premières productions d'Alan Stivell. C'est comme ça que Lorena McKennitt va se mettre à la harpe celtique, un instrument dont à l'époque personne n'a entendu parler, encore moins outre-Atlantique, qui sera aussi accordéoniste, pianiste et chanteuse. Une grande qualité de ses compositions, même si elles sont très datées, qui expliquait justement qu'elle s'est mise à la musique par crainte de voir disparaître une, non seulement une idée, mais surtout une pratique collective de la musique.
I think that music is disappearing from our lives and that it is really become such a spectator.
J'ai vraiment la sensation que la musique est en train de disparaître de nos vies et que c'est devenu un sport qu'on regarde et qu'on ne pratique plus. Alors que la musique folk, en fait, a toujours été là pour provoquer cette sensation de communication où les gens pouvaient se retrouver pour partager une expérience commune.
Now in this contemporary age, I see so little of that.
And en cette période contemporaine, je vois ça de moins en moins, cette idée de se sentir comme ça ensemble et de recréer cet espace, c'est quelque chose de primordial. Il faut absolument qu'on fasse rentrer à nouveau les gens dans la musique et que la musique rentre dans leur vie. Il ne faut pas laisser la musique être reléguée à quelque chose que vous regardez. Prenez un instrument.
and not just as a listener. Of course, we all need listeners too.
Évidemment, nous sommes tous des auditeurs, mais je ne peux que recommander d'expérimenter cette joie pure que l'on reçoit quand on joue dans la musique avec d'autres gens et quand on chante ensemble. Lorena McKinnitt dans un morceau vocal, alors on pourrait sans conteste dire que c'est surtout son jeu de harpe et sa capacité à produire des arrangements assez modernes sur cette musique celtique qui en fait était en pleine réinvention puisque cette harpe celtique ayant totalement disparu et ayant eu besoin d'être littéralement reconstruite hein, par les gens qui la jouaient, il y avait évidemment une énorme marge d'improvisation, de création dans ce qui s'attaquait à cette musique et celle, notamment, Lorena McKinnitt va devenir une star de l'harpe celtique en essayant de construire un répertoire qui à la fois s'inspire de ce qu'elle a connu mais de ce qu'elle a pu récupérer depuis son Canada natal comme répertoire et en se basant aussi sur un répertoire plutôt de la Renaissance puisque c'est de ces pages-là que les pages les plus intéressantes pour la harpe avait été écrite. Elle va devenir une musicienne extrêmement successful, 14 millions d'albums vendus, notamment parce qu'elle participe à la bande originale du fameux film Highlander, et notamment de Highlander 3, paru en 94. Les années 90 vont beaucoup, beaucoup faire, en l'occurrence, pour la reconnaissance de cette musique dite celtique. Elle est finalement nommée, elle remporte d'ailleurs un Grammy. Non, elle ne le remporte pas, mais elle est nommée dans la catégorie New Age, une catégorie qui lui paraît pas tellement pertinente, elle qui considère qu'elle fait plutôt une musique Old Age. Écoutez-la.
The category, interesting for me because you have always defied being put in a box.
Yes.
New Age is the category.
Yes.
How do you feel about it?
Well, I mean, there's a long explanation and there's a short one.
Ouais.
I mean,
I think comment je me sens dans cette catégorie New Age? Eh bien, je vais dire qu'il y a une explication très longue et une plus courte. Moi-même, je ne regarde pas du tout ma musique comme de la musique New Age. Je pense que c'est vraiment un point de vue nord-américain sur ma musique. Mais bon, j'ai fini par réaliser, en tournée, notamment en Europe, que cette catégorie New Age, en fait, elle englobe, pour les gens qui ne connaissent pas la musique celtique, un énorme échantillon de musiciens. Par exemple, quand j'ai tourné en Espagne, j'ai été interviewée par un magazine dit New Age, et à côté de moi, il y avait Tori Amos et Peter Gabriel. Donc vous voyez, en fait, l'essentiel, c'est quand même d'avoir été nommé.
The sun quenched its first dawning, the moon lost to the sea, like the dew lost unto the morning, so you, my love, are lost to me. I can hear now the piper's calling on that far distant shore, and my tears now like leaves are falling, and I will see your face.
La voix d'une chanteuse qu'on ne connaît pas très bien ici, dans une collaboration avec le groupe The Chieftains, Mairena Brennan, dite Moya Brennan pour le grand public qui aurait du mal à lire évidemment le gaélique. C'est une voix qui a énormément compté en Irlande, puisqu'elle a commencé à chanter avec sa famille dans les 70 au sein d'un groupe, The Clannad, composé par deux frères qui étaient vraiment dans cette même logique, hein, de suivre ce renouveau dit celtique. C'est une femme qui a énormément compté, dont on vous donne cette version assez traditionnelle, mais qui a eu deux énormes apports et qui est célébrée. Si vous vous baladez notamment sur les comptes YouTube, son compte YouTube, et que vous regardez ses chansons les plus iconiques, cumulent des millions et des millions de vues, car elle a été l'une des premières à chanter, à proposer des chansons entièrement en gaélique. Langue qui, je le rappelle, à l'époque, dans un contexte encore extrêmement brûlant, hein, de conflit avec notamment l'Angleterre, avait été complètement, disons, on peut le dire très frontalement, aussi bien en Irlande du Nord qu'en Irlande, reléguée à une forme de langue de paysan, en réalité, une langue honteuse, celle que le colon avait voulu évidemment faire disparaître. Elle a ceci donc de particulier qu'elle chante tout le temps quasiment en gaélique, et que par ailleurs elle va moderniser cette musique dite celtique avec toute une foule d'arrangements qui, on peut le dire, nous touche plus beaucoup depuis 2024. Sa qualité notamment, et son timbre, et notamment le rôle qu'elle joue, ne peut néanmoins être minimisé, d'autant que elle est la sœur aînée d'une jeune fille qui va beaucoup compter, qui d'abord en 79 va rejoindre son groupe, le groupe qu'elle a avec les Clannad, avant d'entamer en 83 une carrière solo, carrière qui va exploser à l'international et parfois donner une vision assez caricaturale de ce qu'est le chant celtique, alors qu'en réalité, quand on regarde ça depuis 2024, on peut vraiment se dire qu'elle a inventé quelque chose. Évidemment, je parle de la chanteuse Enya, qui sera tellement reprise, qui servira d'ailleurs de base à toute une foule de chansons. Enya qui nous parlait justement du rapport à la langue qu'il y avait dans sa famille.
Yes, well, my childhood there was so much music happening around me.
Dans notre enfance, il y avait tellement de musique autour de nous, évidemment, ça nous a influencés. Nos parents, nos grands-parents étaient tous musiciens. On vient d'une très grande famille, hein, et j'ai des souvenirs d'enfance très heureux en réalité. On était 9 frères et sœurs, 4 sœurs, 4 frères. Et moi, je suis, comme j'aime à le dire, la 4e plus jeune. En fait, je suis au milieu.
Now this particular part of the world is very much a Gaelic theory, isn't it?
Mm-hmm.
Now I've spoken to you about this before, and I envy your ability to speak such great Gaelic. How much Gaelic did you speak when you were young?
C'est drôle que vous enviez ma capacité à parler le gaélique. Moi, en fait, je parle gaélique parce que c'est la seule langue que j'ai parlé jusqu'à ce que j'aille à l'école à 3-4 ans. C'est seulement à ce moment-là que j'ai appris l'anglais. C'était la seule langue qu'on entendait. Évidemment, je chante en gaélique parce que c'est ma première langue. Ma langue maternelle, c'est dans celle-là que je me sens le plus à l'aise. C'est celle dans laquelle je m'exprime le mieux. D'Enya un peu isolée d'autres voix, on avait envie de vous la donner à entendre, car ce qui va en fait faire décoller Enya d'une certaine manière, c'est qu'elle va quitter le groupe qu'elle a monté avec d'autres et avec sa sœur, le groupe Clannad, qui va devenir célèbre d'ailleurs juste après son départ pour son Theme from Harry's Game, et elle va commencer à travailler avec le producteur, gérant musical Nicky Ryan et sa femme, qui eux ont délibérément envie d'inventer un genre. C'est là qu'elle va sortir plusieurs morceaux instrumentaux et qu'elle va commencer à composer déjà alors de la musique pour un documentaire, le documentaire télévisé The Celt. Et ce qui aboutit à un premier album en 87, Enya, qui en réalité n'a pas beaucoup de succès à l'époque parce que il propose un son très novateur et qui ne rentre pas vraiment dans aucune case. C'est tout un travail sur le tissage de la voix d'Enya, des voix d'Enya, puisqu'elle va chanter par couches superposées, parfois en gaélique, parfois avec simplement, évidemment, de tout petits, essentiellement de l'expression vocale pure, a cappella. Et finalement, c'est le morceau Boadicea de cet album qui va la faire exploser puisqu'il est repris par le groupe The Fugees pour l'un de leurs titres les plus célèbres, Ready or Not. On écoute Enya et ce travail justement de diva celtique qui modernise et qui, elle, revendique complètement l'appellation New Age. Mmh.
No, I can't. I can't because much as I love other cities.
Oui, alors évidemment, moi, j'adore voyager dans le monde entier maintenant que tout le monde m'écoute, mais je dois toujours revenir en Irlande. Car tout ce que je fais vient évidemment de mes racines irlandaises. J'adore travailler, hein. Voilà, je voyage, je dois le dire. Mais jusqu'à un certain point, parce qu'au bout d'un moment, il faut toujours que je rentre. En fait, moi, j'ai été élevée à la campagne. Ça a été toujours très important pour moi, cette sensation d'espace. Et c'est ce que j'essaye de donner à entendre dans ma musique. Je pense que tout ça me ramène toujours à mon enfance, qui est un peu le cœur de là où je crée. C'est l'un des fondements de mon travail. Un moment important, évidemment, car c'est les Fugees qui reprennent cette chanson. C'est l'explosion et l'omniprésence d'ailleurs d'Enya. C'est aussi l'époque où on va découvrir, le grand public va découvrir une chanteuse qui, elle, à l'instar de plusieurs, va d'une certaine manière imposer cette voix qui a des relents celtiques, cette voix en cette fin des années 80 qui est là pour chanter, mais aussi pour hurler, pour dire beaucoup de choses, bien des choses, pour parler à la fois de la difficulté de vivre, d'exister dans cette culture irlandaise qui a tant été brimée par les Anglais, mais aussi de la difficulté d'être une femme irlandaise tout court. J'ai nommé évidemment Sinéad O'Connor. Babylon, on est au milieu des années 90, ça fait déjà 7-8 ans que Sinéad O'Connor a imposé sa voix, son style, sa très grande vulnérabilité. Cette voix, donc, qui est évidemment, alors sur ce titre, qui reprend des éléments un peu reggae, un peu trip-hop, qui sample du Miles Davis. Ce titre dans lequel elle fait le récit des souffrances qu'elle dit avoir vécues du fait de sa mère. Sinéad O'Connor, qui naît dans une famille irlandaise et qui tient son prénom de la femme du président irlandais de l'époque, Éamon de Valera, fratrie de 5 enfants avec une histoire familiale très dure puisque le père quitte le foyer. Sinéad O'Connor dit qu'elle est très fragilisée par la cruauté de sa mère, finit alors qu'elle est toute jeune par réussir à aller vivre avec son père, mais déjà si fragile, si abîmée que ses vols et son absentéisme vont pousser son père à la placer dans ces institutions religieuses catholiques très puissantes, le couvent de la Madeleine dirigé par les sœurs du Bon Pasteur. Alors on connaît aujourd'hui les rigueurs, les difficultés, l'humiliation et même les viols qui ont été permis dans ces couvents et dans ces institutions aussi où on plaçait les filles mères. Sinéad O'Connor n'aura de cesse de dénoncer l'emprise du catholicisme dans cette Irlande extrêmement religieuse. Je n'ai jamais vécu et ne vivrai sans doute jamais dans un tel état de panique, de terreur et de souffrance que lorsque j'étais au couvent de la Madeleine. Sinéad O'Connor qui, en 92, alors qu'elle est déjà une figure très importante de la scène, va se produire à la télévision américaine et déchirer en direct une image du pape. On est bien avant les grandes révélations sur les abus sexuels dans l'Église catholique et la manière dont l'Église les a couverts, évidemment. Deux semaines plus tard, elle doit paraître dans un très grand concert en hommage à Bob Dylan. Et le public, qui est pourtant un public abnormalement épris de folk song, de chansons contestataires, l'a eu. Écoutez-la chanter a cappella et parler, porter sa parole. Une parole qu'elle tentera de porter jusqu'au bout avant de disparaître. Sans doute aussi très abîmée ayant développé aussi une maladie et ne pouvant plus gérer sa bipolarité. Sinéad O'Connor, 92, blessée mais hyper forte.
Until the philosophy which holds one race superior, we find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy.
In Dublin's fair city, where the girls were so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, 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 oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels. So was her father and mother before. And they all wheeled their barrows through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, 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 oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
Molly Malone, version Sinéad O'Connor, qui nous tire les larmes, extrait de son album de 2002, She Knows Noir, où elle reprend des grandes chansons traditionnelles irlandaises, en l'occurrence celle-ci en anglais, est une chanson extrêmement dansante que si un jour vous passez à Dublin, vous ne pourrez pas ne pas entendre, et qui raconte l'histoire d'une poissonnière qui crie « Achetez mes moules, elles sont vivantes », qu'ici, vous l'entendez, Sinéad O'Connor décide d'interpréter de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup moins gaie, et où le cri poisson vivant, le terme alive, résonne complètement différemment, évidemment, dans cette instrumentation et dans sa voix. Et nous paraît extrêmement troublante. Le fait est que vous l'entendez ici, et le fait d'ailleurs qu'elle ait accepté, même voulu, faire un album entièrement dédié au répertoire irlandais, alors qu'elle faisait des chansons originales et d'une certaine manière inventait un style propre, nous montre bien qu'évidemment elle ne renie jamais cette identité irlandaise. Il en est un peu différemment et en même temps de même pour une autre figure très importante, j'ai nommé évidemment Dolores O'Riordan, la chanteuse, compositrice du groupe The Cranberries, qui va exploser avec une chanson zombie entièrement liée au conflit nord-irlandais qui, dans ces années 90, déchire véritablement le pays. Vous allez les entendre, vous allez l'entendre ici, Dolores O'Riordan, dire que, alors qu'en dépit, on peut le dire, de son style vocal et évidemment des sujets qu'elle aborde, revendiquer qu'elle n'est pas un groupe, qu'elle ne fait pas partie d'un groupe qui se revendique comme irlandais. Cette relation d'amour-haine avec ce pays, elle va l'explorer tout au long de sa vie, comme on va l'entendre ici dans une chanson, So Cold in Ireland, qui va apparaître dans la réédition de l'album de Zombie qui les avait fait connaître, une réédition qui date de 2002, où on intègre enfin ce titre, Pourquoi fait-il si froid en Irlande, dans laquelle la chanteuse évoque justement cette relation complexe avec ce pays qu'elle aime et qui l'a fait tant souffrir. On a choisi de vous passer ça plutôt que Zombie, que vous connaissez évidemment très bien. Écoutez-la, Dolores O'Riordan, parler du fait qu'elle n'a pas envie d'être cataloguée comme une chanteuse irlandaise.
Do you feel yourselves to be an Irish band? Is Irishness important to your music?
Est-ce que l'identité irlandaise est importante pour nous? Je crois pas. On peut dire qu'on est effectivement un groupe irlandais, parce que c'est notre culture. Mais je crois pas qu'on puisse être défini comme ça, vous voyez. On n'est pas un groupe celtique, de culture gaélique, comme d'autres artistes, vous voyez. C'est pas si important pour ça, que ça, musicalement pour nous, qu'on soit irlandais ou pas. Oui, aucun d'entre nous n'a jamais fait de musique traditionnelle irlandaise, en fait. Mais vous chantez quand même avec un accent irlandais très fort et vous parlez de l'Irlande. Oui, en fait, j'ai un accent irlandais et contrairement à d'autres, je ne fais pas semblant d'être autre chose que je suis. Oui, c'est vrai que d'autres le cachent. Nous, on a des copains qui vous parlent avec un accent irlandais et soudain, quand ils se mettent à chanter, ils ont un accent américain très fort. Moi, je trouve ça plutôt drôle. Faut-il vraiment qu'il fasse si froid en Allemagne, en Irlande? Waouh, c'était un très beau lapsus de ma part, nous sommes en direct. C'est une histoire d'espoir et de gloire. Oui, tu es allé loin de moi, celui que j'aimais sans fin. Nous avions une si belle vie. Maintenant, tout est fini, Dolores O'Riordan et son type de chant. Hein, vous avez entendu, c'est triste, c'est décrochage. ses sonorités aiguës, la résonance, sa manière à la fois de faire vibrer sa voix, de singer aussi un sanglot qui nous touche évidemment toujours. Donnons la parole, donnons à entendre la voix d'une jeune femme qui, elle, incarne le renouveau du folklore écossais. Elle s'appelle Julie Fowlis, elle est devenue assez célèbre puisqu'elle a interprété les chansons et qu'elle les a même écrites du fameux film de Pixar Disney Rebelle, un film qui, pour une fois, tentait de vraiment jouer le jeu, de mettre en valeur cette culture écossaise, une culture qui, rappelons-le, a été véritablement détruite après la bataille de Culloden à la fin du XVIIIe siècle, où tout le mode de vie, la structuration sociale de la société écossaise a été complètement, disons, balayée par le colon anglais. Écoutons Julie Fowlis parler de ce mouvement de la folk écossaise qui n'est pas véritablement un mouvement originel, mais qui néanmoins lui paraît être l'un des plus honnêtes et le seul qu'elle veut interpréter.
For me, Scottish Gaelic culture is...
Pour moi, la culture gaélique écossaise,
it has an honesty about it.
A une forme d'honnêteté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
You know,
toutes ces chansons, elles ont été écrites en réponse à cette sensation d'amour, certes, mais de deuil, de perte terrible. C'est une histoire politique terrible. Elles représentent en fait une époque qui révolue, ça c'est sûr. Mais les messages que portent ces chansons sont toujours aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque où elles ont été écrites. Et à part la partie politique, il faut quand même dire que ces mélodies, en tout cas à mes oreilles, restent absolument magiques. Elles sont à la fois extrêmement anciennes et elles n'ont rien perdu de leur nouveauté. J'aime les chanter et elles ont tant de sens pour moi. Julie Fowlis, dont on vous invite à écouter les nombreux albums, qui est ici leaduse dans un travail de tissage de la voix assez fou. On ne pouvait pas ne pas clore cette émission avec non pas une diva, mais un groupe au sein duquel officie une femme qui déjà pour nous est une diva. C'est le groupe sans doute le plus intéressant du renouveau folk dit celtique, mais précisément irlandais. Ce sont les quatre membres du groupe Lancum, les trois membres du groupe Lancum, avec à la voix notamment une jeune femme qui est assez fabuleuse. On vous invite à découvrir tout leur travail, notamment leur album qui date de 2023, False Lancum, qui a reçu un accueil critique à la hauteur de sa qualité. Écoutez ici ce chant dit traditionnel mais retravaillé avec un travail sur, on peut le dire, les sons, la musicalité, les arrangements qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps et qui nous donne envie justement d'écouter ce qui va pouvoir se produire dans ces renouveaux, énièmes renouveaux de la musique celtique. Lancum, Go Dig My Grave.
Go dig my grave, both wide and deep. Place a marble stone at my head and feet, and on my breast a snow white dove, to tell this world that I died for love. Oh, Lordy, love,
la voix de Rady Pitt. Et vous allez l'entendre ailleurs si vous avez la curiosité d'aller chercher la mise en musique assez folle de ce groupe Lancôme qu'on suivra de près. Merci beaucoup à Thomas Jost qui a réalisé cette émission, à Dalia qui était aux manettes, à nos deux attachés de production, Laura Dutèche-Pérez qui a préparé cette émission, Théa Corlaire qui est avec nous pour 2 semaines. N'hésitez pas évidemment à podcaster tous les épisodes de cette série, notre série Diva qu'on aime beaucoup, mais aussi tous les épisodes de la série musicale sur notre site franceculture.fr.